Voilà.
Alors, donc là, on se situe donc devant un bac qu'on appelle Récifal, parce qu'en fait, il est, en comparaison avec d'autres bacs d'eau de mer, celui-là, il y a une prépondérance, il donne la... Il y a une prépondérance de coraux, alors que dans les autres bacs, c'est essentiellement des poissons ou quelques échinodermes ou des crustacés, hein, disons style oursin, concombre de mer, alors que dans celui-là, il est peuplé en majeure partie de coraux. Les poissons ne sont pas absents, puisqu'il y en a, puisqu'ils servent aussi à réguler l'ensemble, ils interviennent dans l'équilibre donc du bac. Mais disons que... On fait surtout essentiellement attention dans ce type d'aquarium, donc aux coraux. Alors on peut distinguer plusieurs coraux. Donc il y a déjà des coraux dits des coraux durs, donc parce que ceux-là ils ont un squelette calcaire, donc comment qu'ils construisent, hein, donc au fur et à mesure des années. Donc hein, par exemple on voit celui-là, un Hymnophora ou de l'Acropora, hein, comme on, ça on connaît.
Tape pas aux vitres s'il vous plaît.
on connaît essentiellement l'Acropora, où il y a aussi des genres Euphilia, Catalaphilia, disons que tous ceux-là ils ont un squelette calcaire. Bon, après, même dans ces mêmes coraux, il y a des coraux à petits polypes, comme l'Acropora, c'est-à-dire que le polype en fait c'est même presque la base du corail, c'est-à-dire c'est comme on va pouvoir schématiser ça par une petite bouche, c'est par là où il se nourrit en fait. Ça se présente un peu sous forme d'une petite étoile. Donc là, bien sûr, on ne les voit pas trop.
Vous pouvez les distinguer par la couleur, peut-être. Hein,
ouais. Donc, par exemple, sur l'Acropora, c'est un petit polype, alors que sur le Catalaphilia, ouais, c'est des gros polypes, tout comme sur les Euphilia. Donc, dans ces mêmes familles, donc il y a deux, on peut distinguer deux genres. Après, on peut passer, il y a des coraux mous, qu'on appelle, donc c'est-à-dire que là, ils n'ont pas un véritable squelette calcaire, c'est plutôt des spicules calcaires qui poussent à l'intérieur, en fait, pour maintenir le corail droit. Mais il est comme celui derrière, là, c'est un sinularia, il est beaucoup plus mobile, comparativement donc à l'Acropora. Après, il y a des corallimorphères, comme on voit à bas, Stylactinodiscus, Discosoma, donc ça se rapproche plus des anémones, hein, comme les anémones de mer, hein, c'est dans les mêmes familles, ainsi que tout ce qui est Zoanthus, ça se rapproche aussi des anémones de mer. Alors en fait, l'originalité un peu des coraux, c'est qu'ils se nourrissent essentiellement par le biais de leurs zooxanthelles, donc c'est des algues microscopiques qui sont dans leur tissu, et donc qui vont, par le biais donc de l'énergie solaire, qui vont leur fournir les aliments dont ils ont besoin. Donc en fait c'est une symbiose, le corail héberge l'algue et puis l'algue en échange leur fournit la nourriture. Donc pour certains coraux, il y a aussi ils sont capables d'ingérer de la nourriture plus compacte, hein, comme des artémia, des bouchères de crevettes, enfin disons que surtout ceux à gros polypes. Là, on peut bien localiser, ils vont se rétracter, hein, puisque les tentacules vont se refermer. Et puis donc, la proie va être ingérée à l'intérieur. Pour les coraux à petits polypes, c'est beaucoup moins évident. Enfin, essentiellement, en aquarium, on ne sait pas trop comment les nourrir. En fait, l'essentiel, c'est de leur fournir une lumière adéquate, une lumière puissante, et puis qui donne dans le bon spectre, c'est-à-dire qui se rapproche le plus possible de la lumière du soleil, en fait. Voilà. Donc, sinon, ce que les coraux ont besoin, en fait, pour maintenir un bac de ce type, c'est d'essayer, il faut essayer de recréer au maximum le biotope, donc c'est-à-dire de faire intervenir plusieurs animaux pour vraiment créer un équilibre le plus complet possible. Donc, ça va aussi bien des petits astrea, donc c'est des petits coquillages qui vont contrôler la pousse des algues.
Petits colimaçons à chapeau chinois.
Voilà. Ou sinon, comment on peut donner aussi des ophiures, c'est des genre d'étoiles de mer avec des tout grands bras qui vont aussi des tritivores, des Bernard l'ermite, des petits crustacés, donc qui vont tout le temps être en train de fuminer dans le décor pour nettoyer, ils vont se nourrir de petites particules, des restes de nourriture. Et puis donc les poissons qui vont peuvent aussi avoir un rôle, donc pour certains, donc ça va être de limiter aussi la pousse des algues. Puis pour d'autres, c'est juste des fois d'être agréable, puis de faire plaisir à la personne qui regarde l'aquarium.
Pour les yeux,
oui. Voilà. Parce que bon, un aquarium comme ça sans poisson, c'est vrai que c'est toujours un peu dommage. Ouais, là, on va pouvoir aussi remarquer, tout en haut, c'est un bénitier. Donc, ouais. C'est un bivalve filtreur qui lui aussi, donc, et d'une part, il va filtrer l'eau. Hein, et en plus, il a au fond, donc à l'intérieur, il héberge aussi des eaux dentelles, donc ils vont aussi le nourrir de la même façon que les coraux. C'est pour ça qu'ils sont placés, il est placé aussi assez haut pour avoir un maximum d'ensoleillement. Quoi.
Oui, c'est très important. Donc, les animaux et les coraux qu'on trouve là, est-ce qu'on les trouve ensemble dans la nature?
Non, en fait, disons que sur un récif, en général, bon, moche. C'est toujours par rapport à des photos, à des reportages, parce que j'ai jamais pu aller voir encore. Hein. Donc, mais c'est souvent sur une parcelle, il va y avoir un type de corail. Donc nous, en fait, c'est assez artificiel que de les regrouper comme ça, l'un à côté de l'autre. Parce qu'il faut savoir aussi que les coraux s'attaquent entre eux. Hein, ils ont des filaments urticants qu'ils peuvent déployer et pour brûler l'autre corail afin de coloniser son territoire. Donc c'est pour ça qu'en les mettant l'un à côté de l'autre, il faut toujours se méfier des interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Il y a des coraux qui sont plus urticants que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est assez artificiel de le faire comme ça. En fait, c'est un peu comme un jardin, quoi. Hein, on va mettre des fleurs ou des plantes l'une à côté de l'autre alors que bon, finalement, on ne les trouverait pas ensemble ou elles ne viennent pas des mêmes régions. Donc, bon, c'est pareil pour les poissons, il y en a qui vont venir plutôt de mer Rouge, d'autres qui vont être plutôt pacifiques, d'autres océans indiens. Hein, donc,
Et néanmoins, on peut les mettre ensemble.
Néanmoins, on peut les mettre ensemble. Mm-hmm. Bon, il faut pareil, il y a toujours aussi des comportements à vérifier.
Mm-hmm. Donc, on tâtonne.
Voilà. Bon, ben maintenant, on a quand même vu comment. Sur le comportement des poissons, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sues, puisqu'on les maintient. Hein, depuis quand même déjà un certain nombre d'années en aquarium de poissons seuls, ouais, donc on connaît quand même leur comportement.
Sur les classiques, en tout cas.
Voilà. C'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'on intervient régulièrement sur un aquarium comme celui-là pour maintenir cet équilibre, c'est-à-dire enlever un corail qui grandit trop vite?
Ah oui, ça, il faut. Bah, disons que les coraux, ils ont l'avantage, c'est un peu comme une plante. C'est qu'on peut les couper, les bouturer. Donc, par exemple, la copora, on coupe une branche et puis on la recolle sur une pierre et puis ça va refaire ça va repartir de la bouture. Il y a beaucoup c'est ça.
Il y a un peu l'image du jardin à tailler finalement.
Voilà. C'est exactement ça. Donc bon, par contre, il y a des coraux à gros polypes qui là, eux, vont bourgeonner d'eux-mêmes. Et ce qui est surtout important aussi de signaler, c'est pour les maintenir. Donc il y a l'éclairage. Et puis il y a surtout aussi le brassage, c'est assurer une bonne circulation d'eau, parce que dans la mer, c'est tout le temps continuellement brassé par les vagues. Et là, il faut essayer de recréer le même mouvement d'eau pour les déjà pour leur apporter la nourriture, et puis pour les débarrasser des déchets que les algues produisent aussi.
Oui, donc il y a une aspiration quand même, il y a une circulation.
Voilà, il y a une circulation d'eau, et qui favorise aussi les échanges gazeux à la surface, qui vont donc saturer l'eau en oxygène, évacuer le CO2, enfin maintenir, disons, que la pression des gaz, quoi. Il faut savoir aussi, donc, pour entretenir un bac comme ça, bon, on peut déplacer les coraux, on peut les bouturer, mais ce qui est important, c'est de leur fournir, essentiellement, c'est le calcium, et donc du calcium, du strontium, disons, des éléments qui sont besoins pour construire leur squelette, parce que bon, comme nous, il faut qu'on boive du lait, on leur apporte du calcium, du strontium essentiellement, de l'iode aussi, et puis après, des tampons, c'est-à-dire des solutions de bicarbonate et de carbonate, pour justement, pareil, faciliter la précipitation du carbonate de calcium pour qu'ils puissent construire leur squelette. Et après, donc, le dernier point important, c'est le traitement de l'eau. Donc, parce qu'il demande une eau de très bonne qualité. Donc, avec très peu de nitrate, très peu de phosphate, donc pas d'ammoniac et pas d'ammonium non plus. Donc, pour ça, en général, on utilise, disons, que l'action des pierres vivantes. Donc, ce sont des pierres qui sont colonisées par des bactéries qui vont aider à purifier l'eau. Et puis l'action d'un écumeur, donc c'est un cylindre dans lequel on injecte de l'eau mélangée avec des bulles très très fines. Et donc ça va produire de l'écume comme on voit sur le bord de la mer. Ça va monter dans un godet et en fait c'est juste les résidus, tous les acides aminés, les protéines qui vont rester dans le godet, qui vont donc être au-dessus de l'écume. Donc ça permet de retirer déjà des composés organiques avant qu'ils soient dégradés par les bactéries. Ça soulage en fait l'action des bactéries qui sont dans les pierres vivantes.